Nous aurons droit à la diffusion en direct du point de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avec son directeur national de la santé publique, le docteur Arruda, que vous connaissez bien. Et se joindra à eux le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID au Québec, Daniel Paré. Les trois devraient arriver dans les prochaines minutes, donc on va vous retransmettre ce point de presse en direct. En attendant, je vous propose Christian Jacob. Il est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Bonjour, Monsieur Jacob.
Bonjour.
Mettons un petit peu la table en attendant le point de presse, parce qu'on a vu hier, bon, ça n'a pas été long, 11 jours seulement pour que finalement le gouvernement de François Legault revienne donc à des restrictions telles qu'on les connaissait il y a à peu près une semaine et demie. Donc, on a ordonné à nouveau la fermeture des salles de gym, de sport. L'enseignement du secondaire se fera à nouveau à distance. En fait, 3, 4, 5, ce qu'on avait dit, ben, ça va être une journée sur deux. On limite à nouveau la fréquentation des lieux de culte, tout ça en zone rouge. Finalement, bon, en même temps, c'est une décision que le premier ministre assume. Quand vous avez vu ça, Christian Jacob, quelle a été votre réaction? Vous avez dit, bon, enfin, ils ont compris. Comment vous voyez ça?
Ben, vous dites ça a duré 11 jours. Je pense que ça doit faire à peu près ça qu'on s'est parlé.
Oui.
La dernière fois qu'on s'est parlé, justement, c'était par rapport au fait qu'on réouvrait un peu tôt, là, après la semaine de relâche. Puis, je pense que tout le monde était pas mal sur du même avis, là, du sens que peut-être qu'on y a été un petit peu vite dans le relâchement. Mmh. Oui, on semblait avoir atteint un plateau, mais un plateau qui n'était pas extrêmement bas et qui demeurait fragile, et on sait que l'été est encore quand même relativement loin, là. Ce qu'on se dit justement, c'est qu'à la même période, l'an passé, on était en plein dedans, là. Le climat faisait pas en sorte qu'on avait un contrôle sur la pandémie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui ne sera pas le cas dans les prochaines semaines non plus. Donc, je pense qu'ils ont été un peu vite, qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Je pense qu'ils ont cédé à des pressions. Mais bon, ils reprennent la bonne voie, je pense. Il fallait remettre des mesures en place et c'est ce qu'ils font.
Voilà. Et ils viennent justement de s'asseoir. Alors, si vous voulez bien, Christian Jacob, on va se rendre tout de suite au point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé.
Alors, merci beaucoup, Marjorie. Et bonjour, chers collègues. Bonjour, tout le monde. Alors, encore une fois, on est ici pour faire le point sur la vaccination au Québec. On débute une nouvelle phase que j'appelle d'accélération en commençant à vacciner de nouveaux groupes prioritaires dans les prochaines heures. Premièrement, je vais commencer par les 60 ans et plus et dans les régions. Premièrement, on va ouvrir les réservations aux 60 ans et plus dans l'ensemble du Québec à partir de demain. Donc, la prise de rendez-vous peut commencer demain pour tous les 60 ans et plus dans toutes les régions. Cependant, compte tenu du nombre limité de vaccins dans quelques régions, les rendez-vous seront disponibles dans les semaines à venir. C'est tout à fait normal, toutes les régions ne sont pas rendues au même endroit. Notre objectif reste le même, que les 65 ans et plus soient vaccinés en avril à la grandeur du Québec. Très important. Nous avons pris aussi la décision de redéployer des doses vers certaines régions, comme j'ai dit hier, notamment dans la capitale nationale, 8000 doses, Chaudière-Appalaches, 3000, et en Outaouais, 9000 doses. Je veux aussi mentionner qu'en Outaouais, toutes les personnes de plus de 65 ans ont déjà leur rendez-vous planifié en avril. Une autre bonne nouvelle. On s'assure ainsi d'avancer rapidement dans la vaccination à la grandeur du Québec. Je ne sais pas si on réalise à quel point cette phase-là, elle est importante. Je le répète depuis le début, les personnes de 60 ans et plus sont les plus vulnérables. D'être rendues dans ces pourcentages-là, pour moi, c'est tout un accomplissement. Maintenant, sur mon deuxième point, AstraZeneca. On va aussi utiliser le vaccin de AstraZeneca pour vacciner un maximum de personnes possibles de 55 ans et plus. Malgré le fait que ce vaccin soit sécuritaire, plusieurs personnes ont des réticences. Ce qu'on va faire, c'est offrir ce vaccin à toutes les personnes de 55 ans et plus qui vont vouloir devancer leur date de vaccination. Et ça, je prendrai juste un petit peu de temps, puis Daniel pourra l'expliquer. Lorsque la prise de rendez-vous s'est faite, il y a quelques semaines, des fois, des gens avaient des rendez-vous en avril ou en mai. si des gens qui ont déjà des rendez-vous voulaient se prendre le privilège d'aller chercher un rendez-vous cette semaine ou aller dans le 100 rendez-vous, ils peuvent le faire, puis on s'organisera pour canceller les rendez-vous. Donc, c'est très important. Si vous trouvez que votre rendez-vous est trop loin et que vous vous qualifiez comme 55 ans et plus, le AstraZeneca peut être une très bonne alternative. Alors, donc, soit la date de vaccination sera avancée ou vous pourrez vous faire vacciner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore de rendez-vous, on va ouvrir les 100 rendez-vous dans des cliniques qui sont désignées. J'en ai parlé hier dans le communiqué qui va être disponible dans les prochaines minutes. En annexe, vous allez voir tous les sites où c'est disponible. Ce sera partout au Québec, à l'exception du Bas-Saint-Laurent, Saguenay, parce que les AstraZeneca prennent quand même une journée de plus à atteindre certaines régions. Donc, en gros, disponible à compter de demain pour Montréal, Québec, l'Estrie, mais dans les régions un petit peu plus éloignées, on aime mieux avertir que ça va être seulement à partir de vendredi. Malheureusement, pour l'Abitibi, c'est la seule exception. L'Abitibi n'a pas d'AstraZeneca compte tenu des variants qui ne sont pas applicables avec l'AstraZeneca. Donc, je résume, les personnes de 55 ans et plus qui veulent se faire vacciner sans rendez-vous et recevoir le vaccin AstraZeneca pourront se rendre dans les cliniques suivantes entre 8 heures et demain matin. Puis les cliniques suivantes, je le dis, là, à partir de 8 heures le matin à 20 heures, et la liste est dans le document qui est sur notre site Web. On a demandé à nos PDG de rouler à leur pleine capacité en termes de ressources humaines et matérielles. Pourquoi j'explique ça? Parce que j'ai entendu souvent le commentaire, mais il me semble qu'on regarde les centres de vaccination, puis il n'y a pas beaucoup de monde. Bien, premièrement, c'est une bonne nouvelle, c'est des centres de rendez-vous. Mais en même temps, ce qu'on demande aussi à nos gens, c'est d'être disponible. Je vous le dis, si jamais à 8 heures demain soir, il y a des gens qui veulent avoir encore du AstraZeneca, on ne fermera pas les portes du centre de vaccination. On va vraiment implanter un système de coupons pour éviter que les gens attendent trop longtemps. On va garder la formule du 100 rendez-vous dans les prochains jours. Moi, je pense que jusqu'à dimanche, parce qu'à dimanche, à partir de lundi prochain, le site Web de Clic Santé devrait être ajusté en conséquence. Mais donc, on va garder le maximum d'efficacité dans nos sites pour que le 100 rendez-vous puisse continuer jusqu'à dimanche. Troisièmement, sur Montréal. Maintenant, ce qui est important, c'est une très, très bonne nouvelle que l'équipe du Dr Arruda nous a confirmé hier, c'est nos nouveaux groupes prioritaires, ce qui va permettre justement d'aller chercher plus de rendez-vous à Montréal. Et on va commencer par Montréal, qui avait pris de l'avance pour freiner les variants. C'est sûr que les groupes prioritaires dont je vais parler, ce qui s'applique seulement pour l'île de Montréal en ce moment, et les autres régions vont suivre très rapidement lorsqu'on aura atteint, là aussi, les pourcentages de nos populations, par exemple, de 60 ans et plus. Puis c'est important de vacciner selon les groupes prioritaires. C'est une question de santé publique, c'est une question d'évaluation des risques, mais aussi d'optimiser les doses qu'on a pour qu'on puisse toujours diminuer les décès, les hospitalisations et la contagion. Bon, maintenant, vous commencez à connaître nos catégories. Ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est la catégorie 8. Donc, la catégorie 8 à Montréal, dès la semaine prochaine, on va dire à compter de lundi, les personnes de moins de 60 ans qui vivent avec une maladie chronique pourront commencer à être vaccinées dès la semaine prochaine. Ces personnes sont celles qui se rendent à l'hôpital pour recevoir des traitements ou consulter un médecin. Lors de votre prochain rendez-vous de suivi médical, vous pourrez être vacciné. Ça représente environ 150 000 personnes. Et encore une fois, je le précise, c'est sur l'île de Montréal. Ces personnes ne doivent pas se rendre dans les centres de vaccination de masse pour se faire vacciner. Ils vont se faire vacciner à l'hôpital même, comme je l'ai expliqué, avec leur médecin traitant. Dr Arruda pourra vous expliquer aussi comment cette catégorie-là, elle a été établie lors de sa présentation. Catégorie 9, les travailleurs essentiels. Ça fait longtemps qu'on en parle, on est content d'y arriver. Dès ce vendredi, à Montréal, les travailleurs essentiels, dont le lieu d'emploi est à Montréal, pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. On va vous demander, lorsque vous allez venir à votre rendez-vous la semaine prochaine, d'amener une preuve d'emploi lors de votre vaccination. Très important. Les travailleurs essentiels, c'est les travailleurs qui sont susceptibles de soit de contracter ou des fois de propager le virus bien malgré eux. Donc, c'est le personnel scolaire, le personnel des milieux éducatifs, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, les travailleurs des abattoirs dans le domaine de l'alimentation et les travailleurs du secteur minier en région éloignée et, sans les oublier, les travailleurs du milieu communautaire. Ça fait longtemps que ça nous est demandé. Ça représente ça aussi pour la ville, pour le Grand, pour Montréal, pour l'île, pardon, 150 000 personnes. Pour cette catégorie, on va aussi se fier à la bonne foi des gens, mais je vous demande, pour faciliter, amener une preuve d'emploi lorsque vous venez au site de vaccination. En fait, si on additionne ces deux catégories-là, c'est 300 000 personnes qu'on doit vacciner avant de passer à la catégorie de la population générale, soit les moins de 60 ans. Et ça vous explique beaucoup pourquoi, je prends juste une petite minute, on a été obligé, à un moment donné, quand on a vu qu'à Montréal, le 60 ans ne rentrait pas aussi vite qu'on voulait, de prendre la décision tout de suite à nos catégories 8 et 9, ce qu'on fait présentement. Maintenant, j'aimerais clarifier un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je veux prendre quelques minutes pour parler d'achalandage dans nos centres de vaccination. Moi, comme les Québécois, là, je lis mon journal tout le matin, puis quand j'ai vu ce matin une photo d'un centre de vaccination qui était vide, puis qu'on dit qu'on ne réalise pas nos objectifs, là, je vais vous dire que ça vient me faire un petit pincement, puis je veux expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Premièrement, il y a deux raisons. Il y a toujours une incertitude qu'on va avoir les vaccins à des dates qui sont imprécises. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir peut-être ouvert uniquement 60 ou 70 % de nos sites, puis d'arriver, comme il arrive cette semaine, 350 000 vaccins, puis de ne pas être prêt. Alors, on a pris une décision très éclairée au début, puis cette décision-là, c'était d'ouvrir plus de centres, de les rendre disponibles, de former nos gens, puis de s'assurer qu'en tout temps, si on avait des vaccins extra, on était prêt à agir, ce qui est exactement ce qui arrive cette semaine. Deuxièmement, une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas beaucoup de monde des fois, mais c'est des sites sur rendez-vous. C'est tout à fait logique de ne pas avoir de file d'attente parce que ce sont des sites sur rendez-vous. Alors, dans ces centres-là, vous allez voir, puis j'espère qu'on le verra même dans les prochains jours avec AstraZeneca, vous allez voir qu'on a cette capacité-là de monter en puissance très rapidement parce qu'on s'est préparé depuis plusieurs semaines puis qu'on est capable de réagir rapidement. Puis c'est dans les mêmes centres. Alors là, vous les avez vus fonctionner des fois au quart ou à la moitié de la capacité et là, vous pouvez les voir dans les prochaines semaines fonctionner à leur pleine capacité. Alors, ce qu'on ne voulait pas, et je finis là-dessus, on a voulu faire le plus de centres possible proches de la population. Vous avez vu comment il y en a de nombreux sites quand vous allez voir notre site. Donc, on aime mieux avoir plus de capacité que pas assez, parce que quand ça va rentrer en mai et en juin, vous allez voir qu'il va falloir être prêt. Je veux conclure en disant que malgré ce que certains pourraient appeler des petits accros, que je pense qu'ils sont normaux pour une opération de cette envergure et qui est aussi complexe. Hein, Daniel, on le voit tous les jours. Moi, je pense que la vaccination va très bien au Québec. Et on a des choses à ajuster, mais on s'ajuste avec ce qui se passe sur le terrain. Dès qu'on fait ça, ben c'est tout à fait normal qu'on doit s'ajuster lorsqu'on voit des points qu'il faut régler. Je pense que c'est à nous de rester agiles. Moi, mon objectif est très clair, c'est de vacciner le plus de Québécois le plus rapidement possible. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a fait. Mais je comprends aussi, puis je veux peut-être J'en ai parlé à ceux qui ont déjà été dans mes souliers là, dans d'autres crises, notamment le H1N1 et d'autres. Je pense qu'il est normal qu'à ce moment-ci, quand on est tanné, qu'il y ait un petit peu de jalousie entre les groupes. Puis que certains groupes réclament d'être vaccinés plus rapidement. C'est tout à fait normal. On m'a expliqué qu'on allait vivre ça dans les prochaines semaines. Parce que, je vous donne un exemple, c'est sûr qu'une région, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, qui n'a pas la même structure de population, de vieillissement de la population, ne sera pas à la même place qu'à Montréal, etc. On fait le mieux qu'on peut pour ajuster, basé sur les recommandations. Mais moi, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'arrêter de vous comparer d'un endroit à l'autre ou d'un groupe à l'autre. On a vraiment une quantité limitée de vaccins. Et je veux vous assurer qu'on les donne de la façon la plus optimale possible pour sauver le maximum de vies, éviter le maximum d'hospitalisation, de soins intensifs, puis de réduire la contagion. Je le répète, on va atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. Tous les Québécois adultes qu'ils voudront recevront au moins une dose d'ici le 24 juin. Merci beaucoup.
Merci. Maintenant, Dr. Arruda.
Oui, merci, M. le ministre. Je voulais prendre quelques instants pour vous donner un peu plus de détails sur comment les personnes faisant partie des prochains groupes prioritaires ont été retenues et pourquoi. Je vous rappelle que notre ordre de priorité s'appuie sur la recommandation du Comité d'immunisation du Québec qui a établi un ordre de séquençage des priorités pour la vaccination dans un contexte où on n'a pas de vaccin pour tout le monde. Il faut y aller d'une certaine façon, comme le disait le ministre. On le dit depuis le début, les vaccins sont disponibles graduellement et c'est pourquoi les personnes ayant un risque plus élevé d'être infectées, de développer des complications et de décéder de la COVID-19 sont vaccinées en priorité. Maintenant, il n'y a plus de vaccins qui sont disponibles et la vaccination peut être élargie à de plus en plus de personnes, à Montréal d'abord, mais il faut tout de même faire certains choix. Pour les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les rendant très vulnérables à la COVID-19 et qui sont âgées de moins de 60 ans, les travaux étaient en cours depuis plusieurs semaines pour être capables d'identifier quelles sont ces personnes-là. La vaccination sera offerte en milieu hospitalier pour ces personnes qui sont déjà suivies dans ces milieux. La vaccination sera offerte aussi aux personnes qui sont présentement hospitalisées en raison d'une maladie chronique. De plus, des cliniques de vaccination spécialisées seront prévues pour vacciner en priorité les personnes suivantes. Les personnes qui ont reçu une greffe d'organes ou ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse, les personnes qui suivent présentement des traitements de cancer, les personnes qui sont dialysées pour de l'insuffisance rénale. Les personnes qui ont fait une réaction allergique au vaccin et qui ont besoin d'un suivi par un allergologue pourront aussi se faire vacciner lors des activités de vaccination en milieu hospitalisé spécialisé. Au besoin, les pharmacies pourront compléter les services de vaccination pour ces personnes. En même temps, des plages de rendez-vous sont ouvertes dans Clic Santé pour les personnes de milieu de travail qui sont à risque d'importants d'éclosion de COVID-19. On parle ici du personnel des écoles primaires et secondaires, du personnel de milieu de garde pour enfants, garderie, CPE, du personnel de la sécurité publique, pompiers, policiers, centres de détention, des travailleurs des organismes communautaires des services et santé sociaux, des travailleurs étrangers temporaires, le personnel des abattoirs et le personnel des secteurs miniers en région éloignée. Pour la majorité de ces travailleurs, comme le disait le ministre, il faut s'inscrire sur Clic Santé dans une section qui va être spécifique sur le site. On va mettre en place, bien entendu, des mécanismes de contrôle de l'admissibilité à la vaccination qui va être mise en place à l'entrée des sites de vaccination. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir une preuve d'emploi dans les milieux ciblés pour s'assurer là, d'une équité envers tout le monde. Pour certains milieux, de la vaccination par une équipe mobile sera organisée, par exemple, pour les centres de détention ou des milieux agricoles. Ces travailleurs ont tous été retenus en fonction des données épidémiologiques, de la fréquence des éclosions dans ces milieux, du risque d'exposition à la COVID-19 et afin de réduire les perturbations sociales et préserver le fonctionnement de la société. Par ailleurs, la vaccination des travailleurs de la santé se poursuit et inclut, rappelons-le, le personnel d'organismes communautaires en santé mentale, traitement des dépendances et services sociaux sans logis, aux personnes sans logis. Je réitère que c'est par mesure de précaution que l'administration de ces vaccins aux personnes âgées de moins de 55 ans a été temporairement suspendue en attendant que les évaluations des experts soient terminées. Tous les vaccins offerts au Québec sont sécuritaires et efficaces et les bénéfices de la vaccination dépassent de beaucoup les risques potentiels de certains événements rares. Il faut rappeler surtout que tout ça a été fait en considérant le risque, surtout dans un contexte où le variant s'accélère de façon importante. La propagation du virus au Québec, il ne faut pas hésiter à recevoir le vaccin si vous avez 55 ans et plus. Je tiens à vous dire, tout moment que vous attendez pour recevoir le vaccin est un moment où vous demeurez à risque d'avoir la maladie et des complications. Et donc, n'hésitez pas à vous tenir très renseigné sur ce qui se passe dans votre région. Et dès que vous êtes considéré comme un groupe à vacciner, de grâce, faites-le rapidement et remplissez les plages de rendez-vous. Merci à tous.
Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous allons débuter avec les journalistes qui sont sur place en français. Alors, comme il y a plusieurs personnes qui sont inscrites aujourd'hui, s'il vous plaît, bien poser une question et une sous-question en précisant votre nom et votre média. Alors, micro 1.
Bonjour à vous, Philippe Bonneville du 98.5. Monsieur Dubé, je vous ai un peu posé cette question-là hier. J'aimerais revenir un peu là-dessus. On fait les calculs, là. On a 750 000 vaccins de disponibles présentement. Je sais que vous allez me dire qu'il y en a en transit vers l'Abitibi, vers la Côte-Nord et tout ça. Ça peut prendre quelques jours et tout. Qu'est-ce qui nous empêche présentement? Parce que vous voulez améliorer ou accélérer le rythme de vaccination. Vous avez dit 60 000, 70 000 d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce qui nous empêche présentement au Québec de vacciner, disons, 100 000 personnes par jour, étant donné qu'on a les doses disponibles? Est-ce que c'est une question de logistique, une question de personnel? Essayez de nous expliquer pourquoi on n'est pas capable de se rendre vite à ce niveau-là.
Moi, je trouve qu'on y arrive quand même assez vite, là, mais je pense que deux fois hier, mais il y a une petite variante à votre question, puis je vais passer après ça au docteur Paré. Je dis le docteur parce que c'est vraiment notre spécialiste. Mais il y a une chose que j'aimerais vous expliquer, c'est que on peut pas prendre la photo du 700 000 à une journée puis de dire que le lendemain, on peut faire 300 000 vaccins. J'aimerais ça que ça fonctionne comme ça, là, mais j'ai expliqué hier que ça rentre à différentes journées, mais la première journée où on le reçoit, après avoir fait les inspections, de l'envoyer, regardez, là, le AstraZeneca, là, j'aimerais bien ça qu'il soit aussi disponible dans les régions qu'on a nommées tantôt, mais il ne l'est pas. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de vacciner à Montréal du AstraZeneca quand les gens vont vouloir à partir de demain matin parce qu'il n'est pas encore rendu, vous comprenez? Donc, ça, c'est un bel... Juste l'aspect logistique que mon collègue fait avec les 17 PDG tous les matins, déjà là, il y a un aspect. Donc, la logistique, on n'est pas juste à Montréal, on est au Québec qui a la caractéristique géographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des fournisseurs différents avec des caractéristiques différentes. Alors, moi, ce que je vous dis, puis c'est pour ça que je pense qu'on va essayer d'être, on va suivre ça très proche, puis on avait encore notre réunion ce matin, on pousse beaucoup nos PDG à leur dire, écoutez, en ce moment, là, on peut faire assez facilement 40, 45 000 par jour. Vous l'avez vu depuis plusieurs semaines. Là, si nos pharmaciens ont Moderna entre les mains, puis il n'y a pas de problème, bien ça nous en rajoute. Donc, un certain nombre, mais c'est AstraZeneca qui va faire la grande différence. Là, on en envoie, on a combien d'AstraZeneca là, qui va en région? C'est 350 000. Alors donc, Montréal, il y en a à peu près presque 100 000 avec les pharmacies. C'est pour vous expliquer que c'est assez complexe. Alors, moi, je suis le premier à vouloir être là, mais il y a une chose que je veux répéter, puis c'est ça qui m'a fait, qui m'a turlupé un petit peu ce matin, turlupiné ce matin, c'est quand on dit, ou en tout cas, qu'on dit qu'on n'atteint pas notre objectif, je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, mars et avril, on va être en bas de 50 000. Et avril-mai, on va être en haut de 50 000. La moyenne de ces quatre mois-là va faire qu'on va avoir vacciné nos 5,3 millions de personnes. Mais c'est normal qu'en mars et avril, notre défi, là, c'est de vous prouver, de prouver aux Québécois dans les prochains jours que si l'AstraZeneca, qui est une bonne nouvelle, sort bien dans les prochains jours, bien, on pourra montrer que la machine peut faire 65, 70 000 par jour. C'est ce que je souhaite. Mais c'est les prochains jours. Mais la machine est là. On a beaucoup de vaccinateurs qui sont sur place. Daniel met beaucoup de pression tous les matins. Moi aussi. Mais on est là.
Et pour le calendrier de vaccination, là, bon, on voit qu'on entre dans d'autres catégories. Beaucoup de gens vont nous écouter et se disent, bon, moi, je suis dans la population de générale, comme vous l'appelez, les 60 ans et moins.
Ouais.
À quel moment environ, selon le calendrier que vous avez de réviser, là, à quel moment ces gens-là peuvent s'attendre, à Montréal et ailleurs en région, de pouvoir commencer à être vaccinés et comment ça va fonctionner? Vous l'avez déjà expliqué, là, mais est-ce qu'on va y aller par tranche d'âge décroissante, 50, 55, 45, 50, ou on va y aller de manière plus générale, d'un coup?
Bien, je vais commencer, mais juste pour après ça passer la parole à Daniel. Là où on va être, les gens vont être un petit peu déçus, là, quand on va avoir passé nos 700 000 qu'on a, on va retomber à plus bas, là. OK? Alors, donc, il faut faire attention qu'on a encore, puis c'est pas pour rien que le premier ministre disait que le mois d'avril, il est de tous les défis, là, pas juste en termes de protection, mais on est encore dans un mois instable en termes d'approvisionnement. Mais c'est pour ça qu'on se concentre là, sur notre catégorie de 60 ans et plus en ce moment, mais peut-être que Daniel peut vous donner des dates un peu plus précises.
Une idée, en tout cas.
Oui, puis... ce qu'il faut se souvenir, M. Dubé en a parlé, là, c'est le nombre de vaccins qu'on reçoit. En avril, 1,4 million. C'était ça la prévision avant la surprise AstraZeneca. Là, pour le mois de mai, c'est 1,6 million. Et le mois de juin, à date, on a 4 millions de doses de vaccins qui sont confirmées. Fait quand on parle, moi aussi, M. Dubé, ce matin, j'ai lu le journal, puis j'ai eu mon petit pincement aussi. Et ce qu'il ne faut pas faire l'erreur, c'est de voir ça de façon linéaire. Parce que linéaire, on n'a pas des vaccins qui arrivent en même temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas le voir, la courbe, là, je vous le dis, elle va être... Je vais faire un docteur Arruda de moi, là. La courbe, elle va être comme ça. Et le mois de juin, ça va être pas 100 000, ça va être 120 000 par jour, 130 000 par jour. C'est à ça qu'on prépare notre réseau, c'est à ça qu'on prépare nos pharmacies. Et c'est pour ça aussi qu'on on travaille sur d'autres projets, là, pour augmenter notre capacité. Fait que, juste pour compléter, dans le fond, la réponse, c'est pas un enjeu de ressources humaines, c'est pas un enjeu de capacité. Maintenant, c'est un enjeu d'arrivage de vaccins, de prise de rendez-vous, parce que dans les facteurs qu'on a là, on peut être prêt. Ça prend des gens pour vacciner, puis ça prend des gens qui veulent venir se faire vacciner. Puis le succès, bien, c'est ces trois choses en même temps.
Merci. Nous allons passer au prochain média.
Oui, bonjour, Ariane Lacourcière de La Presse. Sur le rythme de vaccination, là, donc vous annoncez certains malades chroniques ce matin, mais c'est certaines personnes en particulier qui sont soignées dans les hôpitaux. Est-ce qu'il va y avoir des catégories aussi pour les gens qui font de l'hypertension, qui souffrent d'obésité? Il y a comme d'autres catégories qui sont considérées comme plus à risque où ces gens-là vont être traités dans les 60 ans et plus? Puis est-ce qu'on doit aussi attendre un ralentissement parce que les deuxièmes doses vont commencer à être données aussi?
Dans la planification des deuxièmes doses, je laisse Daniel compléter, mais elles sont planifiées dans nos approches, c'est ce que j'en sais. Il faut comprendre que ce qu'on a choisi là, comme groupe prioritaire de maladies chroniques, ça a été discuté avec des cliniciens. Là. C'est vraiment ces gens-là qui sont à très, très haut risque. Et donc, les autres maladies, là, par exemple, vous êtes une hypertension artérielle bien contrôlée, diabétique, etc., même les éléments d'obésité, ça va se traiter avec les 60 ans là, et plus comme tel. Et ça va être, comme ça va ouvrir aussi en grande quantité, ça va permettre d'aller chercher ces personnes-là.
Peut-être pour la deuxième dose, je ne vais pas te mettre par ici. Hein.
Oui, nous, d'un point de vue logistique, là, quand que j'ai une confirmation, d'exemple la semaine prochaine de Pfizer, c'est 230 000 doses, nous, on envoie aux établissements toujours leur code-part de deuxième dose. On sait exactement le nombre de personnes qui ont pris les doses, et ça, c'est la première priorité. On s'assure pour chacun des vaccins que les deuxièmes doses sont rendues. Et justement, on est vraiment là-dedans maintenant. Vous savez qu'on avait débuté nos vaccins là, décembre, janvier. On arrive à notre 112 jours. Et ça, c'est la première priorité. Et on va toutes les suivre, on va tous suivre comme ça, toutes les gens qui vont recevoir leur premier vaccin, deuxième vaccin. Ça fait partie de notre stratégie de vaccination pour les prochains mois.
Une petite question aussi un peu technique sur Clic Santé. Il y a des gens qui nous font remarquer qu'on peut prendre plusieurs rendez-vous, qu'il n'y a pas de limite avec notre numéro d'assurance maladie, au nombre de rendez-vous qu'on peut prendre. Certains en prennent plusieurs, les annulent pas, disent que c'est pas tout le temps facile d'annuler le rendez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité qu'il y ait plusieurs plages horaires ou rendez-vous qui ne soient pas comblés parce que les gens, justement, veulent pas prendre de chance, en prennent plusieurs, les annulent pas? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème technique à régler de ce côté-là?
Écoutez, on a eu connaissance, en effet, là, de ce problème-là. Et on a mis maintenant là une nouvelle adaptation sur le système Clic Santé pour empêcher, dans le fond, les gens de prendre des multiples rendez-vous. D'ailleurs, on en a annulé plusieurs dizaines de milliers, des doublons, des triplons, etc., là, qui arrivaient. Et encore là, peut-être juste pour compléter, là, à chaque jour, on a à peu près 4 % de gens là, qui ne se présentent pas là, à leur rendez-vous pour différentes raisons. Fait que ça peut être, on le sait, là, c'était des clientèles plus âgées qu'on vaccinait. Donc, il y en a peut-être qui avaient des rendez-vous, des problèmes de santé, etc., qui n'ont pas pu se joindre. Et ça, nous, quand ces doses-là ne sont pas perdues, ces doses-là, on les remet en circulation, on rouvre des rendez-vous pour les donner là, aux gens qui veulent se faire vacciner.
Merci. Maintenant, François Carabin.
Oui, bonjour, messieurs. François Carabin avec Métro. Je vais poursuivre un peu là-dessus. Que dites-vous, peut-être M. Dubé ou M. Paris, de l'adhésion de la population à la stratégie de vaccination? Parce que là, on a vu des rendez-vous qui ne se sont pas remplis cette fin de semaine. Est-ce que c'est causé par une adhésion qui est plus basse que ce à quoi vous vous attendiez au final?
Non, au contraire, je pense que les Québécois sont avides de se faire vacciner. Je sais que je suis peut-être pas le bon échantillon, là, parce que ceux que je rencontre nous disent deux choses. Comment ils sont contents lorsqu'ils sont fait vacciner, puis comment ils ont eu un service de qualité. Les gens, moi, quand j'entends dire « mon Dieu, je suis allé là, ça a pris 15 minutes, j'ai été assis », je pense que l'expérience que l'équipe de Daniel a offert, l'expérience vaccination, les Québécois sont très contents. Je pense que puis c'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de temps aujourd'hui pour expliquer que c'est normal qu'on ait des fois quelques petites difficultés, puis on s'ajuste. J'ai pas peur de le dire, là, qu'on s'ajuste. Puis sur 1,6 million de doses qu'on a données, s'il a fallu replacer à peu près 5 000 rendez-vous sur... Faites le pourcentage, là, c'est pas grand-chose, mais il faut s'ajuster. Les Québécois sont en même de penser qu'ils ont hâte d'être vaccinés. Si malheureusement des gens ne se sont pas présentés quand c'était leur temps, bien, je les comprends que des gens soient frustrés de ça. Ça, c'est normal d'être frustré. C'est à nous de dire ces doses-là ne sont pas perdues. J'ai fait sortir un chiffre hier là, de doses perdues que, par accident là, de quelqu'un qui se fait vacciner, on échappe la seringue par terre, là. C'est 232. On a perdu 232 vaccins sur 1,6 million qui a été vaccinés. Alors, je peux vous dire, on n'en perd pas de doses. Alors, je pense que les Québécois peuvent être fiers, mais je comprends, et on comprend avec la pression qu'on met sur tout le monde, qu'ils ont hâte d'être vaccinés. Fait que moi, je pense que ça va très bien.
Alors, on va s'arrêter ici pour le point de presse. On va aller à la pause. Je vais vous demander ce que vous pensez de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On est en mode accélération là, de cette opération vaccination au Québec. Vous avez entendu, le ministre de la Santé nous a annoncé là, l'élargissement de la vaccination. Sur l'île de Montréal seulement, là, ça touche beaucoup de nos auditeurs qui y vivent. Il y a des nouveaux groupes prioritaires qui ont été annoncés. Donc, les moins de 60 ans qui ont des maladies chroniques, qui sont plus vulnérables à la COVID, vont pouvoir avoir accès au vaccin à l'hôpital, évidemment avec la collaboration de leur médecin traitant. Il y a les travailleurs essentiels qu'ils demandaient depuis longtemps du niveau communautaire, les travailleurs dans les milieux scolaires, éducatifs, pompiers, policiers, entre autres. Donc, on a devancé les catégories 8 et 9 qui étaient en queue de peloton, là, juste avant la population en général. Ils sont devenus prioritaires. Alors, vous l'avez entendu, il dit, bon, il y a des choses à ajuster, mais on s'ajuste, puis ça va bien. Ça va bien. Il est temps que ça aille mieux, parce qu'effectivement, quand on regarde les choses au Québec, même si on fait mieux que le reste du Canada, puis ça, il faut quand même le reconnaître. Le Québec a quasiment raté sa cible chaque jour. À part 3-4 jours, là, on a raté notre cible de vaccination quasiment tous les jours. Alors, il faut absolument qu'il y ait ajustement. C'est ce que le gouvernement Legault est en train de faire. Vos réactions là-dessus après la pause au 514-790-9850. Et partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Christian Jacob est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Christian Jacob, c'est un bon plan qui vient d'être exposé plus en détail là, par le ministre de la Santé, d'après vous?
Ben, il n'y a pas de surprise. Là. Ils ont précisé plusieurs choses auxquelles il y avait déjà fait allusion. Je suis content d'entendre, entre autres, que les cibles sont conservées. Ça aurait été bien, je veux dire, c'est tout le temps le fun s'ils annoncent qu'ils vont avoir plus de vaccins ou des choses comme ça, mais ça dépend pas du provincial. Mais bon, on s'attend quand même à respecter les cibles qu'on s'était fixées, comme ils l'ont précisé, avec des variations dans le calendrier, des moments où il y aura des plus de rendez-vous et des moments où les semaines seront plus relax, si on veut. Donc ça, c'est quand même encourageant. Ils ont aussi apporté des précisions sur le vaccin AstraZeneca et je pense que c'est important. Là.
Ouais. Il y en a peu parlé quand même relativement par rapport aux questions qui m'arrivent des auditeurs. Beaucoup de gens demandent parce que quand le ministre Dubé a parlé de l'AstraZeneca qui était peut-être pas applicable à certains variants, je peux vous dire, ça a généré beaucoup de courriels. Qu'est-ce qu'il veut dire en particulier? Est-ce qu'on parle ici du variants, entre autres, d'Amazonie ou d'autres variants?
On parle plus particulièrement du variant B1351, qui est le variant qu'on appelle communément le variant sud-africain, qui a été détecté en concentration importante en Abitibi. C'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca là-bas, parce qu'il y a une étude, je pense, du New England Journal qui évaluait l'efficacité du vaccin AstraZeneca après 2 doses à 10% seulement d'efficacité sur ce variant-là.
Et sur celui de l'Amazonie ou brésilien, est-ce qu'on a également des données?
Sur celui brésilien, je sais pas, mais contre le B117, celui d'Angleterre, il y a une bonne efficacité là, qui est autour des efficacités qui avaient déjà été annoncées.
Ouais, sur l'AstraZeneca d'ailleurs, il y a l'Agence européenne des médicaments là, qui maintient que la balance bénéfice-risque de l'AstraZeneca reste positive, même s'il confirme qu'il y a effectivement probablement un lien avec de très rares cas de thrombose. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ça, Christian Jacob, par rapport à l'AstraZeneca qui continue d'inquiéter beaucoup de Québécois là?
Ben, je pense que c'est ça qu'il faut retenir là, c'est que oui, il semble effectivement avoir un lien là. Ça fait plusieurs semaines qu'on se pose des questions, mais à mesure que les données s'accumulent là, il semble effectivement avoir un lien, mais un lien qui est rare. Il y a d'autres types de médications. Celui qui a été cité de nombreuses fois dans les derniers jours, c'est entre autres les pilules anticontraceptives. Il y a aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont pointés du doigt de plus en plus pour des problèmes de thrombose. Donc, c'est pas ce risque-là est associé à d'autres types de médications aussi. Avec les vaccins, on est souvent plus pointilleux parce que c'est des médications qui vont être données à des populations qui ne courent pas nécessairement tout le temps des risques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le recommande encore chez les personnes plus âgées, les personnes qui ont peut-être d'autres troubles qui peuvent les mettre en danger, mais chez les personnes en bonne santé, plus jeunes, ben là, on va pas nécessairement le recommander avec la
on même est plus frileux, là, ouais.
Ben oui, c'est ça, parce que là, on donne une médication à une personne qui a moins de risques associés à son état.
Avez-vous l'impression que, là, on dit le vaccin AstraZeneca va être offert aux 55 ans et plus, puis si vous voulez, là, vous pouvez même avoir ce rendez-vous là rapidement. Il y a des gens qui me disent, coudonc, c'est une vente de feu de l'AstraZeneca, on veut le passer, puis donc ça devient... comment vous voyez ça, vous, Christian?
Ben moi aussi je me posais un petit peu la question, pas est-ce que c'est une vente de feu, mais est-ce que c'est parce que le gouvernement veut pas l'imposer, veut pas porter l'odieux de l'imposer parce qu'on sait qu'il y a un risque plus important associé à ce vaccin-là, possiblement. Reste que puis c'est ça qu'on s'était dit il y a une semaine ou deux là. Reste que si on me l'offrait, moi je le prendrais encore aujourd'hui avec les nouvelles données qu'on a depuis une dizaine de jours. c'est un vaccin qui, somme toute, est efficace, qui est largement sécuritaire, même si on y connaît des effets secondaires. Tous les traitements, tous les médicaments ont des effets secondaires associés. Celui-là, un petit peu plus, oui, mais on parle de 1-2 cas sur 1 million. Là. Donc, c'est quand même des risques qui sont relativement faibles. Un point intéressant, par exemple, qui est peu discuté. Le risque semble un petit peu plus élevé chez les femmes. Je pense que le 2/3 des cas qui ont été identifiés chez les femmes. Je pense entre 40 et 65 ans. Là, je suis pas sûr du groupe d'âge là, mais le risque semble un petit peu plus élevé chez les femmes de ce groupe d'âge là.
Mm-hmm. Christian Jacob, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce point de presse pour nous et de nous en avoir fait une analyse. Christian Jacob est président de l'Association des microbiologistes du Québec. On a José qui est avec nous. Bonjour, José.
Bonjour.
Comment vous avez... qu'est-ce que vous avez retenu, en fait, de tout ce qui a été dit, là?
Ben moi, personnellement, l'AstraZeneca a une chance que j'ai pas eu ça parce que je l'aurais pas pris, ça c'est sûr et certain.
Mm-hmm.
J'en ai pas confiance du tout, mais ça, c'est avec tout ce qui a été véhiculé, mais moi, j'en étais plus à la catégorie de gens, la prochaine catégorie de gens, vous nommez les pompiers, les policiers, mais nous, les chauffeurs d'autobus, la Société de transport de Montréal, tous les gens qui font affaire avec des enfants, avec cette clientèle-là, on les a tous dans nos autobus. Alors, pourquoi nous, on fait pas partie de cette catégorie-là, la prochaine batch avec les policiers, pompiers, etc.?
C'est une très bonne question. Ouais, ouais. Vous êtes consciente, j'ai pas la réponse, malheureusement, José, parce que c'est pas moi qui décide. Si c'est, sincèrement, je pense que c'est assez évident que vous devriez faire partie de ça aussi. C'est toujours une question de dose. Hein. Je pense qu'on doit retenir ça aussi. Le docteur Arruda l'a quand même dit, il n'y a pas de vaccin pour tout le monde en ce moment. Donc, on reste malgré tout avec des cibles qui doivent être priorisées par rapport à tout le monde. Il y a des groupes qui sont prioritaires. Là, on vient d'ouvrir quand même, puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Il faut être content de ça. On vient d'ouvrir à des groupes qui le demandaient depuis très longtemps, c'est-à-dire des gens qui sont plus vulnérables à la COVID. Est-ce que les chauffeurs d'autobus, tous ceux qui travaillent dans le transport en commun, en contact direct avec des clientèles qui peuvent être asymptomatiques, devraient-elles, ces clientèles-là, être ces gens-là là, qui travaillent, qui sont considérés essentiels, devraient-ils être là-dedans, vaccinés aussi? Moi, je pense que oui, mais écoutez, c'est toute une question de disponibilité de doses également. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va aller aux publicités, mais on revient tout de suite après. Et le docteur François Marquis va être avec nous. Puis c'est important de lui parler parce qu'il y a quand même une augmentation importante aujourd'hui du nombre d'hospitalisations. Le nombre de cas, nouveaux cas confirmés de COVID augmente. Là, on est à 1270. Ça reste nettement en bas de l'Ontario, mais c'est beaucoup plus qu'hier quand même. Et il y a surtout une importante augmentation des gens qui ont été hospitalisés à cause de cette maladie, de ce virus. Donc, on va voir ce qu'en pense le docteur Marquis tout de suite après. Beaucoup de gens me disent comment savoir où sont les centres de rendez-vous. Vous allez sur clicsanté.ca, vaccination, très facile. Et pour prendre rendez-vous ou pour connaître le lieu, vous devez faire comme si vous preniez un rendez-vous. Donc, ça vous amène à réserver votre rendez-vous santé. Vous sélectionnez le service vaccin COVID-19, un petit carré jaune. Et là, vous avez saisir votre code postal. Vous rentrez votre code postal. Et là, vous faites rechercher et va défiler ensuite toute une liste d'adresses potentielles. Ce qui est en gris, ça vous met aucune disponibilité par Internet ou téléphone. Mais en bleu, vous allez voir, il y a des carrés bleus. Et là, ça vous met les disponibilités dans les 7 prochains jours. Vous pouvez prendre rendez-vous à ce moment-là. Mais il n'y a pas une liste. Si vous cherchez une liste de centres, c'est pas aussi clair que ça. Ce qui est vraiment le plus clair, c'est faites comme si vous vouliez prendre un rendez-vous sur Clic Santé Vaccination COVID. Vous mettez votre code postal, puis là, ça va vous dire où vous pouvez avoir un rendez-vous. Alors, j'espère que ça peut vous aider. Là, je voulais le préciser parce que beaucoup, beaucoup de gens m'écrivent là-dessus. On va parler tout de suite au docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Marquis.
Bonjour.
Augmentation importante aujourd'hui des hospitalisations. On les surveille, les hospitalisations, parce que c'est pas mal le nerf de la guerre puis l'indicateur numéro un maintenant de la gravité de la situation. Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain là, par rapport à tout ça?
Bien, ce qu'on voit surtout, c'est des gens plus jeunes. Là. Honnêtement, c'est ce qui frappe le plus, des gens qui certains ont aucun antécédent de santé. Donc, ceux qui étaient vraiment complètement absents de la première vague, à peu près, là, ils commencent à rentrer. Aux soins intensifs, c'est encore stable, parce qu'on sait qu'il faut d'abord être hospitalisé, la maladie devient pire et c'est là qu'on se ramasse aux soins intensifs, mais on a les mêmes nombres tout le temps. Pour chaque patient qui sort des soins intensifs, on en a un nouveau qui rentre, donc on est toujours à peu près au même nombre.
Oui, voilà, c'est à peu près 123 là, en date d'hier. Mm-hmm. Ce qui a presque triplé toutefois, c'est le nombre d'hospitalisations, donc c'est plus de gens hospitalisés, puis c'est toujours ça qu'on donne comme référence. Est-ce que le système des soins de santé va être capable d'absorber cette troisième vague ou quatrième ou cinquième, parce que là, on ne les compte plus. Là, on voit qu'il y a quand même une augmentation aujourd'hui, là, 1270. C'est important. Est-ce que vous comprenez ce qui a été expliqué hier, puis donc plus précisé aujourd'hui, le fait qu'on élargisse la vaccination, des bonnes nouvelles pour vous, François?
Oui, définitivement. C'est certain que c'est les tendances, nous, qui nous inquiètent. Donc, si on a 1200, 1300, 1400, ça va être encore plus inquiétant que si on voit un plateau. Mais maintenant, effectivement, le fait qu'on puisse accéder à plus de doses de vaccins, je pense que c'est une excellente nouvelle. Et plus les doses de vaccins se rapprochent de cette clientèle jeune et sans antécédents, le mieux c'est.
Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on doit retenir, vous pensez, Dr Marquis, de tout ce qui a été dit aujourd'hui?
Bien, je pense qu'il faut retenir l'esprit de la flexibilité. Et ce qui est important, c'est de voir que les groupes cibles pour la vaccination sont ajustés en fonction des régions, des disponibilités. C'est un exercice qui est dynamique. Et au lieu de s'inquiéter de voir des changements, en fait, on devrait s'en réjouir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent ça et qui ajustent avec précision pour qu'on essaie de rester un peu en avance sur le virus. Et donc, c'est ce que les gens appellent jouer au yo-yo, c'est pas jouer au yo-yo, c'est de l'adaptabilité, et c'est ça qu'on a de besoin, plutôt qu'une ligne stricte qu'on ne dévierait pas, et que ça serait beaucoup plus inquiétant.
Ouais, vous êtes satisfait de voir qu'on est revenu finalement à ce qu'on avait là, comme restriction il y a à peu près 11 jours, là. Hier, on a remis en zone rouge les restrictions de il y a une semaine et demie, donc l'école. Et là, bien, on voit même la CNSST, là, je pense qu'on va en parler aussi probablement nous demain clairement, puis probablement que mes collègues aussi, le port du masque obligatoire maintenant en milieu de travail par tout le monde, pas juste quand on se déplace, mais au bureau, travailler au bureau tout seul, porte ton masque. Est-ce que c'est nécessaire tout ça, François Marquis?
Bien, je pense que si quelqu'un est absolument tout seul dans son bureau, je pense qu'il peut enlever son masque parce que ça. Mais le problème, c'est les gens qui ont des visites. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que si je travaille seul dans mon bureau, mais que je remplis mon air de mon petit bureau qui est mal aéré, mal ventilé, puis là, tout d'un coup, il y a des milliers de petits virus qui se promènent. Et là, un collègue rentre momentanément, il rentre dans une bulle de virus, finalement. Je pense que c'est ça la logique en arrière. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui travaille à partir
Merci
de la
beaucoup,
maison,
Dr. Marquis. Il faut qu'on enchaîne et laisser de la place pour l'émission qui suit. À demain, tout le monde.